Panium, le nombre 13.
Retour à Paniem, des 16 haies de Philippe à Césarée Maritime, avec une halte en chemin au mont de la Transfiguration. Pierre symbolise les 144 000 qui parviennent au jalon de la fête des trompettes dans la ligne construite sur les deux lignes de 20 versets du Lévitique 23, en conjonction avec la saison de la Pentôte au temps du Christ. Lévitique 23, la croix, la Pentôte et Corneille, en voyant chercher Pierre, sont tous réunis, ligne sur ligne, avec le symbolisme de la troisième, de la sixième et de la neuvième heure. Le Christ à la troisième, à la sixième et à la neuvième heure à la croix. Pierre à la troisième et à la neuvième heure à la Pentecôte. Et Corneille à la neuvième heure, Pierre à la sixième heure à Joppé et à la troisième heure à Césarée de Philippe, se rattache à la Daniel 11, versets 13 à 15, car Césarée de Philippe est aussi Panium. Pierre prêchait à partir du livre de Joël à la Pentecôte, et lorsqu'il présenta son message à la maisonnée de Corneille, l'Esprit Saint fut répandu sur les païens, comme il l'avait été sur les Juifs à la Pentecôte. L'effusion de l'Esprit Saint, d'abord pour les Juifs, puis pour les païens, préfigurait l'effusion de l'Esprit Saint dans les derniers jours. Cette effusion des derniers jours est en deux temps, commençant par une aspersion le 11 septembre qui conduit en fin de compte à la proclamation du cri de minuit, laquelle s'étend jusqu'à la loi du dimanche, puis devient le grand cri du troisième ange, là et alors que la pluie de l'arrière-saison est répandue sans mesure.
Soyez donc dans l'allégresse, enfants de Sion, et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous a donné la pluie de la première saison avec mesure, et il fera tomber pour vous la pluie de la première saison et celle de l'arrière-saison, au premier mois. Et les aires seront remplies de blé, et les cuves regorgeront de vin et d'huile. Et je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le ver rongeur, la chenille et le ver ravageur, ma grande armée que j'ai envoyée au milieu de vous. Joël 2, 23, 25.
Pierre représente ceux qui participent à l'histoire de l'aspersion modérée de la première pluie, depuis le 11 septembre jusqu'à la loi du dimanche, ainsi qu'à la pluie de l'arrière-saison, laquelle restaure les années détruites, représentant les quatre générations de la rébellion croissante de l'adventisme du septième jour laodicéen. Dans le temple, à la neuvième heure, Pierre présenta la restauration des années annoncées par le livre de Joël.
Répétez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, lorsque des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. Et il enverra Jésus-Christ, qui vous a été auparavant annoncé. Le ciel doit le recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes depuis le commencement du monde. Car Moïse a véritablement dit au Père, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Et il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée du milieu du peuple. Oui, et tous les prophètes, depuis Samuel et ceux qui ont suivi, autant qu'ils ont parlé, ont aussi annoncé ces jours. » Acte 3, 19, 24.
L'effacement des péchés est l'œuvre finale du Christ dans le jugement investigatif, et l'effacement commence par la maison de Dieu.
Car le temps est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, où paraîtront l'impie et le pécheur? C'est pourquoi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu confient la garde de leurs âmes à un Créateur fidèle, en faisant le bien. 1 Pierre 4, 17-19.
Pierre comprit, à la Pentecôte et Tituade, et aussi dans la maison de Corneille à Canada et à Césarée, au bord de la mer, que le livre de Joël s'accomplissait. La Pentecôte représente la loi du dimanche, lorsque le jugement est achevé pour la maison de Dieu, et passe ensuite aux gentils. Son message au moment de la loi du dimanche, c'est le même message proclamé à l'arrivée du cri de minuit. La proclamation Alpha est le commencement de la période prophétique qui s'achève avec la proclamation Oméga. Pierre représente ceux qui proclament le message, et le message commence par son revêtement de puissance, lequel est marqué par le déliement de l'âne de l'islam. L'âne est délié pour marquer le commencement du cri de minuit, et il est de nouveau délié à la loi du dimanche, qui est la conclusion du cri de minuit. Pierre représente donc aussi ceux qui ont formulé la prédiction de l'attaque de l'islam contre les États-Unis. Le message de Pierre au cri de minuit est une correction du message qui a marqué la première déception et le commencement du temps d'attente. Pierre représente donc ceux qui proclament le message du cri de minuit, qui ont réussi la première épreuve fondamentale survenue en 2024 et conclue le 8 mai 2025 par l'élection du premier pape américain en accomplissement du verset 14 de Daniel 11. La période allant de la fête des trompettes jusqu'à la Pentecôte constitue la troisième épreuve et la pierre de touche de la saison de la Pentecôte, telle qu'elle est représentée dans Lévitique 23. L'un des principes des trois anges que Sir White a identifié relève aussi tout simplement de l'arithmétique élémentaire. Elle affirme qu'on ne peut avoir un troisième message sans un premier et un second. Puisque Pierre prêche le livre de Joël lors de la loi du dimanche à la Pentecôte, il enseigne donc aussi Joël au commencement de la proclamation du message du cri de minuit, qui est la pierre de touche et la troisième épreuve de la saison de la Pentecôte. Pierre représente donc les fidèles durant le processus d'épreuve en trois étapes qui a commencé lorsque l'Apocalypse de Jésus-Christ fut décelé, le 31 décembre 2023. Si Pierre est présent à la troisième étape, il doit avoir parcouru les deux étapes précédentes, car on ne peut avoir une troisième sans une première et une seconde. La période du scellement des 144 000 a commencé le 11 septembre et a ouvert un processus d'épreuve en trois étapes représenté par l'appel de trompette du 11 septembre à un retour au fondement. Puis survint l'épreuve de la première déception du 18 juillet 2020. La troisième épreuve de l'histoire est la loi du dimanche. Un désert prophétique survint le 18 juillet 2020 et, au sein de cette période de désert, en juillet 2023, une voix se mit à crier. Puis, le 31 décembre 2023, 22 ans après le 11 septembre, commença le décèlement de la révélation de Jésus-Christ. 2023 jusqu'à la loi du dimanche, lorsque l'accomplissement parfait des 2300 jours est atteint, identifie la période allant de 2023 jusqu'à la loi du dimanche comme commençant par 23 et s'achevant par 23, car la porte fermée du 22 octobre 1844 typifie la porte fermée à la loi du dimanche. La prophétie des 2300 ans est représentée par le 23 dans 2300. Unset Fui Wan fait la fin de l'histoire des premiers et deuxièmes anges. L'histoire commença avec l'arrivée du premier ange en 1798 et elle s'acheva 46 ans plus tard, en 1844. Ces 46 années représentent le temple millérite dans lequel le Christ vint soudainement en 1844. Le temple humain est structuré autour de 23 chromosomes chez l'homme, comme chez la femme, faisant ainsi de 23 un symbole de l'œuvre que le Christ commença en 1844. Cette œuvre consistait à unir sa divinité à notre humanité. Jésus emploie le monde naturel pour illustrer le spirituel, et l'œuvre qui commença en 1844, à la conclusion des 2300 ans, est représentée par l'union des 23 chromosomes masculins avec les 23 chromosomes féminins. Lorsqu'un homme épouse une femme, ils deviennent une seule chair, et ce mariage est ce que le Christ commença en 1844. La porte fermée de 1844 s'aligne avec la porte fermée de la loi du dimanche, et le symbole de cette porte fermée est 23. L'intervalle allant du 31 décembre 2023 jusqu'au 23 de la loi du dimanche identifie une période qui commence par un 23 alpha et s'achève par un 23 oméga. Il représente aussi la période du temple des 144 000. Cette même histoire est une fractale de 9 au 11 jusqu'à la loi du dimanche. 1844 est représenté par le nombre 23 et il identifie le commencement du jugement investigatif des morts. 9 au 11 identifie le commencement du jugement investigatif des vivants et par conséquent, 9 au 11 porte aussi le nombre 23. La période allant de 9 au 11 jusqu'à la loi du dimanche est une période avec un 23 alpha et un 23 oméga. La période de 2023 jusqu'à la loi du dimanche est une fractale de celle de 9 au 11 jusqu'à la loi du dimanche, et c'est là que le temple des 144 000 est édifié. Le temple millérite fut une période de 46 ans, mais dans les derniers jours, le temps n'est plus. Et les 46 ans de la période millérite au commencement de l'adventisme typifient la même période à la fin de l'adventisme. Et cette période commence et se termine par 23, produisant le nombre millérite 46. Ces trois histoires représentent un processus de mise à l'épreuve en trois étapes. Les millérites, du 11 septembre jusqu'à la loi du dimanche, et de 2023 jusqu'à la loi du dimanche. L'histoire a commencé par le retentissement de la trompette de Michel, qui a ressuscité Moïse et Élie le 31 décembre 2023. Et lorsque Michel, qui est le Christ, ressuscite, il le fait au son d'une trompette.
Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 1 Thessaloniciens 4:19.
Michel est l'archange, et c'est sa voix, de concert avec la trompette de Dieu, qui opère la résurrection. et le livre de Jude nous apprend que Michel a ressuscité Moïse.
Cependant, Michael l'archange, lorsqu'il contestait avec le diable le sujet du corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais dit « Que le Seigneur te réprime ». Jude 1:9.
Le Christ, en tant que Michel l'archange, décéla la révélation de sa propre personne le 31 décembre 2023, lorsqu'il ressuscita ensuite Moïse et Élie, les deux témoins qui furent mis à mort le 18 juillet 2020. Puis advint l'épreuve alpha du fondement externe. L'ange qui descendit le 11 septembre sonna la trompette de Jérémie, tandis qu'il rappelait les fidèles au fondement millérite. Parallèlement, la trompette de Michel introduisit l'épreuve des fondements. Cette épreuve est représentée par Daniel 11:14, où les brigands de ton peuple établissent la vision externe. Les millérites identifièrent que c'était Rome qui accomplit ce verset et établit la vision. À partir du 8 mai 2025, l'édification du temple sur la pierre angulaire et la pierre de fondation commença. 30 ans après 1996, lorsque le message décelé en 1989 fut formellement établi, le processus commença à formaliser le message décelé le 31 décembre 2023. La formalisation en 1996 du message de 1989 survint 220 ans après l'arrivée, en 1776, de son sujet historique. Le décèlement de 2023 survint 22 ans après que la formalisation de 1996 eût été confirmée, le 11 septembre 2001, par la manifestation prophétique de l'islam. Pierre représente les messagers de cette histoire sacrée qui réussissent les deux épreuves, celle du fondement et celle du temple. L'épreuve du temple comprend la correction du message du 18 juillet 2020, qui a échoué. 30 ans après que le message de 1989 eût été formalisé en 1996, l'épreuve du temple inclut l'œuvre de corriger puis de proclamer à nouveau le message d'une frappe islamique contre Nashville, Tennessee. La formalisation du message de 1989 fut représentée par la publication, en 1996, de la revue intitulée « The Time of the End ». La revue abordait les six derniers versets de Daniel 11 et identifiait la loi du dimanche aux États-Unis. Providentiellement, un ministère inactif, qui avait déjà été nommé Future for America des années auparavant, fut confié à notre ministère par les anciens directeurs de ce ministère, lesquels n'avaient aucune lumière sur le message de 1989. En 1996, notre ministère devint Future for America et parut la publication qui exposait le message identifiant l'avenir de l'Amérique tel qu'il est représenté dans les six derniers versets de Daniel 11. Les États-Unis avaient commencé leur ascension prophétique en 1700 citant Suez et, 22 ans plus tard, au temps de la fin en 1798, les États-Unis commencèrent leur rôle en tant que sixième royaume de la prophétie biblique, houppant en 220 ans après 1776. En 1976, le message concernant les États-Unis dans la prophétie fut formalisé. Les 720 ans années depuis 1776 et les 22 années à partir de ce point jusqu'en 1776, se rattache à William Miller, qui prononça sa première allocution publique en 1831, 220 ans après la publication de la Bible King James. Le commencement et la fin de l'adventisme mettent en évidence la formalisation du message qui est décelé au temps de la fin. 30 ans après 1996, en 2026, l'épreuve du Temple comprend l'œuvre de correction du message du 18 juillet 2020. Ainsi, le message alpha de 1989, le message pour la génération finale qui fut formalisé en 1996, a inauguré une période de 30 ans qui s'est achevée avec l'épreuve visant à corriger et à formaliser un message. Ces 30 années sont un symbole du sacerdoce des 144 000 qui formaliseront le message du cri de minuit. Pierre représente ceux qui accomplissent cette œuvre durant la période de la deuxième épreuve oméga du temple. Sir White nous apprend que Dieu permet que l'erreur s'introduise au milieu de son peuple, afin de les amener à étudier.
Dieu réveillera son peuple. Si d'autres moyens échouent, des hérésies s'introduiront en son sein et le cribleront, séparant la balle du froment. Le Seigneur appelle tous ceux qui croient à sa parole à sortir de leur sommeil. Une précieuse lumière est venue, appropriée à ce temps. C'est la vérité biblique qui met en évidence les périls qui sont à nos portes. Cette lumière devrait nous conduire à une étude diligente des Écritures et à un examen des plus critiques des positions que nous soutenons ou nos pères.
L'énoncé fait partie d'un passage qui viendra clore cet article dans son ensemble. Dans les articles et lors de nos réunions Zoom du sabbat, j'ai confondu certains symboles dans notre étude de Daniel 11, 10, 15. Et, bien que nous ayons apporté les corrections nécessaires, j'ai été détourné de l'objectif de mener à son terme la série d'articles sur Panium, la bataille qui conduit à la loi dominicale. Il est maintenant temps de revenir à Panium, et lorsque nous le ferons, nous disposerons de la ligne de preuve supplémentaire que représente Pierre à Césarée de Philippe, qui est Panium. Nous allons maintenant revenir à nos considérations sur les versets 10 à 16 du chapitre 11 de Daniel, qui illustrent l'histoire cachée du verset 40. Nous nous étions arrêtés en septembre. Il s'est donc écoulé environ 5 mois.
Pierre exhorte ses frères à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toutes les fois que le peuple de Dieu croit dans la grâce, il acquiert sans cesse une intelligence plus claire de sa parole. Il discerne une lumière et une beauté nouvelle dans ses vérités sacrées. Cela s'est vérifié dans l'histoire de l'Église à travers tous les siècles, et il en sera ainsi jusqu'à la fin. Mais à mesure que la vie spirituelle véritable décline, la tendance a toujours été de cesser d'avancer dans la connaissance de la vérité. Les hommes se contentent de la lumière déjà reçue de la parole de Dieu et découragent toute recherche ultérieure des Écritures. Ils deviennent conservateurs et cherchent à éviter la discussion. Le fait qu'il n'y ait ni controverse ni agitation parmi le peuple de Dieu ne doit pas être considéré comme une preuve décisive qu'il s'attache fermement à la saine doctrine. Il y a lieu de craindre qu'il ne distingue pas clairement entre la vérité et l'erreur. Lorsque l'étude des Écritures ne suscite aucune question nouvelle, lorsqu'aucune divergence d'opinion ne survient pour pousser les hommes à chercher dans la Bible par eux-mêmes, afin de s'assurer qu'ils possèdent la vérité, il y en aura beaucoup, aujourd'hui comme aux temps anciens, qui s'attacheront à la tradition et adoreront ce qu'ils ne connaissent pas. Il m'a été montré que beaucoup de ceux qui professent connaître la vérité présente ne savent pas ce qu'ils croient. Ils ne comprennent pas les preuves de leur foi. Ils n'ont pas une juste appréciation de l'œuvre pour le temps présent. Quand viendra le temps de l'épreuve, certains hommes qui aujourd'hui prêchent aux autres découvriront, en examinant les positions qu'ils défendent, qu'il est bien des choses pour lesquelles ils ne peuvent fournir aucune raison satisfaisante. Avant d'être ainsi mis à l'épreuve, ils ne se rendaient pas compte de leur grande ignorance. Et il y a beaucoup dans l'Église qui tiennent pour acquis qu'ils comprennent ce qu'ils croient. Mais, tant qu'une controverse ne surgit pas, ils ne connaissent pas leur propre faiblesse. Lorsqu'ils seront séparés de ceux qui partagent leur foi et contraints de se tenir seuls pour expliquer leurs croyances, ils seront surpris de voir à quel point sont confuses leurs idées sur ce qu'ils avaient accepté comme la vérité. Il est certain qu'il y a eu parmi nous un éloignement du Dieu vivant et que l'on s'est tourné vers les hommes, mettant la sagesse humaine à la place de la sagesse divine. Dieu réveillera son peuple. Si d'autres moyens échouent, des hérésies surgiront au milieu d'eux, qui les cribleront, séparant l'ivraie du bon grain. Le Seigneur appelle tous ceux qui croient sa parole à se réveiller de leur sommeil. Une précieuse lumière est venue, appropriée à ce temps. C'est la vérité biblique, montrant les périls qui sont juste devant nous. Cette lumière devrait nous conduire à une étude diligente des Écritures et à un examen dit plus rigoureux des positions que nous soutenons. Dieu veut que tous les aspects et toutes les positions de la vérité soient examinés à fond et avec persévérance, dans la prière et le jeûne. Les croyants ne doivent pas se reposer sur des suppositions et des idées mal définies de ce qui constitue la vérité. Leur foi doit être solidement fondée sur la parole de Dieu, afin que lorsque viendra le temps de l'épreuve et qu'ils seront amenés devant des conseils pour répondre de leur foi, ils puissent être capables de rendre raison de l'espérance qui est en eux, avec douceur et crainte.
Agité. Les sujets que nous présentons au monde doivent être pour nous une réalité vivante. Il importe que, dans la défense des doctrines que nous considérons comme des articles fondamentaux de la foi, nous ne nous permettions jamais d'employer des arguments qui ne soient pas entièrement solides. Ceux-ci peuvent réussir à réduire un contradicteur au silence, mais ils ne font pas honneur à la vérité. Nous devons présenter des arguments solides, qui non seulement réduiront nos adversaires au silence, mais soutiendront aussi l'examen le plus rigoureux et le plus approfondi. Chez ceux qui se sont formés eux-mêmes comme polémistes, il y a un grand danger qu'ils ne traitent pas la parole de Dieu avec équité. En présence d'un opposant, notre effort sincère devrait être de présenter les sujets de telle manière qu'ils éveillent la conviction dans son esprit, au lieu de chercher seulement à affermir la confiance du croyant.
Quel que soit le progrès intellectuel de l'homme, qu'il ne pense pas un seul instant qu'il n'y ait pas besoin de scruter les Écritures de manière approfondie et continue pour recevoir une plus grande lumière. En tant que peuple, nous sommes appelés, chacun individuellement, à être des étudiants de la prophétie. Nous devons veiller avec sérieux afin de discerner tout rayon de lumière que Dieu voudra nous présenter. Nous devons saisir les premières lueurs de la vérité et, par une étude accompagnée de prières, une lumière plus claire peut être obtenue qui pourra être présentée aux autres.
Lorsque le peuple de Dieu est à son aise et se contente de la lumière dont il jouit actuellement, nous pouvons être assurés que Dieu ne lui sera pas favorable.
Il veut que ce peuple avance sans cesse afin de recevoir la lumière accrue et toujours croissante qui brille pour lui. L'attitude présente de l'Église n'est pas agréable à Dieu. Il s'est glissé un esprit d'autosuffisance qui l'a amené à ne ressentir nul besoin de davantage de vérité et d'une lumière plus grande. Nous vivons en un temps où Satan est à l'œuvre à droite et à gauche, devant et derrière nous. Et pourtant, en tant que peuple, nous dormons. Dieu veut qu'une voix se fasse entendre pour éveiller son peuple à l'action. À lieu d'ouvrir l'âme pour recevoir des rayons de lumière venus du ciel, certains ont œuvré en sens contraire. Tant par la presse que depuis la chair, on a présenté des vues concernant l'inspiration de la Bible qui n'ont pas l'approbation de l'Esprit ni de la parole de Dieu. Il est certain que nul homme, ni aucun groupe d'hommes, ne devrait entreprendre de promouvoir des théories sur un sujet d'une si grande importance sans un clair « ainsi parle l'Éternel » pour les soutenir. Et lorsque des hommes, entourés d'infirmités humaines, affectés à un degré plus ou moins grand par les influences ambiantes et ayant des tendances héréditaires et acquises qui sont loin de les rendre sages ou d'esprit céleste, entreprennent d'assigner à la barre la parole de Dieu et de porter un jugement sur ce qui est divin et ce qui est humain, ils travaillent sans le conseil de Dieu. Le Seigneur ne fera pas prospérer une telle œuvre. L'effet en sera désastreux, tant pour celui qui s'y engage que pour ceux qui la reçoivent comme une œuvre venant de Dieu. Le scepticisme a été éveillé dans bien des esprits par les théories présentées quant à la nature de l'inspiration. Des êtres finis, avec leur vue étroite et à courte vue, se croient compétents pour critiquer les Écritures, disant « ce passage est nécessaire » et tel autre ne l'est pas et n'est pas inspiré.
Christ ne donna aucune instruction de ce genre à l'égard des Écritures de l'Ancien Testament, la seule partie de la Bible dont les gens de son temps disposaient. Ces enseignements avaient pour but d'orienter leurs pensées vers l'Ancien Testament et de mettre dans une lumière plus claire les grands thèmes qui y sont présentés. Pendant des siècles, le peuple d'Israël n'avait cessé de se séparer de Dieu, et il avait perdu de vue des vérités précieuses qu'il leur avait confiées. Ces vérités avaient été recouvertes de formes et de cérémonies superstitieuses qui en cachaient la véritable signification. Christ vint ôter les décombres qui en avaient obscurci l'éclat. Il les plaça comme des gemmes précieuses dans une nouvelle monture. Il montra que, bien loin de dédaigner la répétition de vérités anciennes et familières, il était venu les faire apparaître dans leur véritable force et leur véritable beauté, dont la gloire n'avait jamais été discernée par les hommes de son temps. Étant lui-même l'auteur de ces vérités révélées, il pouvait en ouvrir au peuple le vrai sens, les affranchissant des mauvaises interprétations et des fausses théories adoptées par les chefs religieux en fonction de leur propre état non consacré, de leur indigence de spiritualité et d'amour de Dieu. Il rejeta tout ce qui avait dépouillé ces vérités de la vie et de leur puissance vitale, et les rendit au monde dans toute leur fraîcheur et leur force originelle.
Si nous avons l'Esprit du Christ et que nous sommes des collaborateurs avec lui, il nous appartient de poursuivre l'œuvre qu'il est venu accomplir. Les vérités de la Bible ont de nouveau été obscurcies par la coutume, la tradition et la fausse doctrine. Les enseignements erronés de la théologie populaire ont fait naître des milliers et des milliers de sceptiques et d'infidèles. Il existe des erreurs et des incohérences que beaucoup dénoncent comme étant l'enseignement de la Bible, alors qu'il s'agit en réalité de fausses interprétations de l'Écriture, adoptées durant les siècles de ténèbres papales. Des multitudes ont été conduites à chérir une conception erronée de Dieu, comme les Juifs, égarés par les erreurs et les traditions de leur temps, avaient une fausse conception du Christ. S'ils l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Il nous appartient de révéler au monde le véritable caractère de Dieu. Au lieu de critiquer la Bible, cherchons, par le précepte et par l'exemple, à présenter au monde ses vérités sacrées et vivifiantes, afin que nous puissions publier les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière.
Les mots qui, peu à peu, se sont insinués parmi nous ont imperceptiblement détourné des individus et des églises de la révérence due à Dieu et ont fermé l'accès à la puissance qu'ils désirent leur accorder.
Mes frères, que la parole de Dieu demeure telle qu'elle est. Que la sagesse humaine ne présume pas d'affaiblir la force de la moindre affirmation des Écritures. La dénonciation solennelle de l'Apocalypse devrait nous mettre en garde contre l'adoption d'une telle position. Au nom de mon Maître, je vous dis, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Témoignage, volume 5, 700 de Mans, 710 ans.